On va ouvrir à nouveau ensemble le livre de Josué, s'il vous plaît. Notre thème, c'est « À la conquête de nos Jéricho ». Il n'y a pas que le peuple qui a été confronté à des Jéricho. Nous avons tous des impossibilités devant nous. Nous avons tous expérimenté à certains niveaux qu'il y a effectivement des murs, des forteresses. Il y a certaines situations diverses et variées dans nos vies qui sont littéralement barricadées, qui sont fermées, comme pouvait l'être Jéricho. Alors nous sommes, comme le peuple, nous sommes déjà dans le pays promis, au sens où nous avons déjà un pied dans le pays, nous avons déjà un pied dans la vie abondante de Dieu. Nous sommes au bénéfice des promesses de Dieu pour nos vies, pour nos couples, pour nos familles, pour nos villes, pour notre pays. Et comme le peuple, il y a des grandes promesses, certes, mais entre ce que Dieu nous a promis et ce que nous voyons réellement, il y a bien souvent sur notre route certains Jéricho, il y a des forteresses, il y a des barricades, il y a des murailles hautes, épaisses. Jéricho était fermé et barricadé, nous dit le texte de Josué. Chapitre 6, verset 1er. Et j'aime souvent dire que, comme le peuple, nous sommes dans le « déjà pas encore ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes dans le « déjà, mais pas encore ». Nous avons déjà un pied dans le pays promis. Nous avons déjà commencé à goûter à la vie de Dieu, à l'exaucement de ses promesses, à son cœur, à sa grâce, à ses œuvres, à sa capacité. Nous sommes déjà dans la vie de Dieu. Mais nous ne nous sommes pas encore saisis. Nous n'avons pas encore conquis tout ce que Dieu veut nous livrer. Nous n'avons pas encore vécu tout ce qu'il y a à vivre avec Dieu. Et il y a bien des choses belles, grandes et admirables que Dieu a préparées, qu'il a mis devant nous en réserve. Il y a des promesses extraordinaires de Dieu pour nous dans sa parole. Alors oui, nous sommes dans le « déjà ». Pas encore. On est comme le peuple, on a déjà un pied dans le pays promis, déjà un pied dans la vie abondante, mais on ne va pas plus loin parce que devant nous, il y a des murs, il y a des forteresses, il y a des Jéricho. Et nous sommes appelés, comme Josué et le peuple, nous sommes appelés à avoir cette mentalité de conquérant. Encore faut-il bien ne pas se tromper sur le thème conquête. Alors il y a bien des domaines dans nos vies où il y a tout ce que nous sommes déjà dans le Christ, mais nous n'en avons pas encore pris possession ici-bas sur cette terre. Il y a ce que nous sommes déjà parfaitement en lui et ce que nous n'avons pas encore saisi ici-bas. Je me fais comprendre dans le déjà pas encore, ça va. Il y a tout ce que nous avons, tout ce qui nous appartient, tout ce qui est à Jésus, pensez-y deux secondes, tout ce qui est à Jésus est à vous. Et oui, oh là là. Et effectivement, dans mon quotidien, je suis obligé de dire oh là là, oui. Alors spirituellement parlant, je suis dans le déjà, j'ai tout pleinement en lui, mais dans la réalité pratique de ma vie, il peut y avoir bien des obstacles sur mon chemin, et bien du coup, bien des questions, des incompréhensions. Il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas encore emparés, des choses que nous n'avons pas reçues. Je résume très rapidement pour ceux qui nous rejoignent. Nous avons vu que les clés de la victoire se trouve autant dans le chapitre 5 que dans le chapitre 6, et même plus dans le chapitre 5. Tourner autour des murailles de Jéricho, humainement parlant, c'est complètement stupide. Et on sait très bien que ce n'est pas ce plan qui a fait tomber les murailles. Il y a des clés spirituelles, il y a des principes spirituels qu'il faut absolument reconsidérer. Et on s'aperçoit que, alors qu'il y avait beaucoup à conquérir, alors que l'enjeu était grand, et on peut dire même que plus l'enjeu est important, plus il va falloir se préparer convenablement. Excusez-moi, on ne va pas à la conquête de Jéricho, la fleur au fusil. Non, on y va avec une véritable préparation de cœur, avec une préparation spirituelle. Et sans cette préparation de cœur, on ne va pas plus loin. Et on s'aperçoit que Dieu a pris le temps, parce que Dieu prend son temps. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas de gagner du temps. Ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité, c'est le résultat. Et Dieu a demandé à son peuple de se circoncire. Et on a vu que pour nous aujourd'hui, c'est ce que Paul déclare aux Romains, la circoncision, c'est celle du cœur. Et pourquoi Dieu s'en prend à son peuple en demandant une circoncision, pas seulement un rituel physique, mais une circoncision de cœur? C'est comme si Dieu disait, avant de faire tomber les murailles qui sont à l'extérieur, celles-là, je les contrôle, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, ce ne sont pas les murailles de Jéricho. Le vrai problème, ce sont les murailles qui sont à l'intérieur de ton cœur. Et Dieu s'en est pris premièrement au peuple, aux murailles qui sont à l'intérieur du cœur du peuple. Et on a vu qu'un cœur qui n'est pas soumis à Dieu, un cœur qui n'a pas capitulé, un cœur qui n'est pas obéissant à Dieu, c'est une muraille intérieure qui nous empêche d'avancer, d'aller plus loin. Un cœur qui est partagé, un cœur qui manque d'engagement. Parfois, des gens me disent « Comment ça se fait que j'en vis pas plus avec Dieu ? Comment ça se fait qu'il y a des promesses qui ne sont pas accomplies dans ma vie ? Comment ça se fait que j'en vois pas plus, que j'en goûte pas plus, que j'en vive pas plus ?» Je suis désolé, je vous aime de tout mon cœur. Beaucoup de frères et sœurs doivent reconsidérer la réelle nature de leur engagement avec Dieu. Le manque d'engagement de cœur, c'est une muraille qui nous empêche d'avancer. Ne nous mentons pas. Et puis, cette circoncision du cœur, c'était aussi un cœur séparé du péché. Parce que oui, le manque de pureté, c'est aussi une muraille que Dieu cherche à atteindre dans ma vie, dans votre vie. Et puis on a vu dans un deuxième temps qu'une fois qu'ils ont été circoncis et qu'ils sont restés le temps qu'il fallait dans le camp jusqu'à leur guérison, non, ils n'ont même pas foncé tout de suite. Ils ont pris le temps de célébrer la Pâque. Josué 5, verset 10, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ils ont pris le temps de célébrer la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? La Pâque, dans la symbolique, dans la signification, nous ramène directement à la croix. Pourquoi est-ce qu'il a fallu revenir à la croix, repasser par la croix ? Parce que la Bible me montre clairement qu'il n'y a rien de plus puissant que la puissance de la croix. Oui, il y a des puissances, oui, il y a des forteresses, oui, il y a des murailles, oui, il y a des impossibilités, mais la puissance de la croix, c'est la puissance qui vient à bout de toutes les autres puissances. Et sans la puissance de la croix, sans la vie de la croix, on n'ira nulle part et on fera rien du tout. Et quand le peuple, devant Jéricho, ont pris le temps de célébrer la Pâque après leur circoncision, c'est comme s'ils avaient pris la croix, pas comme un gris-gris protecteur superstitieux. Ils ont pris la valeur de la croix, c'est comme s'ils avaient pris la croix et qu'ils l'avaient plantée dans leur cœur et qu'ils avaient dit « On fera rien sans ta croix, Seigneur, on fera rien sans la puissance de la croix. » Et là, à partir de ce moment-là, on va voir aussi le face-à-face de Josué avec Dieu, mais après seulement. Seulement après, j'insiste, les choses ont commencé à se mettre en place. Mais tant qu'on n'a pas replanté la croix dans notre cœur, on ne peut aller nulle part. La croix, c'est pas seulement un lieu de délivrance. C'est pas seulement le lieu où Jésus est mort pour mes péchés. C'est pas seulement le lieu de mon pardon. C'est pas seulement le lieu de ma guérison. Bien que ce soit déjà franchement merveilleux et extraordinaire. La croix, c'est aussi le point de départ d'une vie nouvelle. Je suis arrivé à la croix, je suis passé par la croix, mais derrière, il y a une vie nouvelle. Et la Pâque était célébrée avec des pains sans levain, le symbole d'une vie débarrassée du péché, du vieux moi, des vieux schémas, des vieux raisonnements, des vieilles forteresses, des vieilles pensées, des vieilles priorités, de l'affection du monde, etc., etc., etc. Le point de départ d'une vie nouvelle pour vivre dans un mode de vie. Si je suis venu à l'existence spirituellement parlant par la croix, c'est normal que je vive constamment dans l'esprit de la croix. Et je vis dans cet esprit de renoncement à moi, dans cet esprit de mort à moi-même, dans cet esprit de brisement. Et plus je suis, comme dit Paul, plus je suis crucifié à moi-même, plus c'est Christ qui va vivre au travers de moi et qui va libérer sa puissance. La circoncision du cœur, la puissance de la croix. Sans ça, frères et sœurs, dans 40 ans, les associations culturelles de France et de Navarre, elles n'auront pas bougé d'un millimètre. On a déjà eu, on aura encore des farfelus, des uluberlus, des photocopieurs de réveil. On cherchera à vous importer ce qui a été fait en Chine, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc., etc., en Corée. On essaiera de vous importer des méthodes, des schémas, des trucs. Le seul truc qui marche, c'est Dieu. Un cœur plein et entier, un cœur engagé, et la puissance de la croix. Et sans ça, on aura des trucs, on aura des méthodes, on aura l'apparence de la vie, mais sans ça, on n'aura jamais la véritable vie, celle qui découle de la croix, parce que la croix, c'est une puissance de vie. Ensuite, il y a une troisième clé qui est importante dans ce chapitre 5. Les autres dimanches, on passera sur les clés qui sont dans le chapitre 6. Mais il y a une troisième clé qui est fondamentale dans le chapitre 5. Et on va lire ensemble à partir du verset 13. Josué, chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, il se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel, ici c'est une théophanie, c'est Jésus lui-même, c'est une représentation dans l'Ancien Testament de Jésus lui-même. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ensuite, là ça s'enchaîne, on a mis des chapitres, on a mis des versets, mais c'est dommage parce que ce n'est pas coupé au bon endroit. Josué fit ainsi. Mais l'entretien entre Josué et Jésus n'est pas terminé. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Verset 2, l'entretien n'est pas fini. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Amen. » Et littéralement, Jésus a dit, « J'ai livré. » Souvent, nos versions de Bible l'ont traduit par « Je livre entre tes mains. » Mais Jésus ici parle au passé composé, il décrit un acte accompli, il dit bien c'est fait, j'ai livré entre tes mains. Pourtant les murailles sont toujours debout, les murailles de Jéricho n'ont pas encore tombé, elles n'ont pas encore cédé d'un point de vue humain, d'un point de vue physique, terrestre, matériel. Elles sont toujours intactes. Et Jésus dit, je les ai livrées entre tes mains. Josué est aussi à ce moment-là dans le déjà, pas encore. Alors on va étudier un petit peu, on va regarder un peu ce texte ensemble. Et on va parler de ce face-à-face de Josué avec Dieu, ce face-à-face dont nous avons besoin avec Dieu. La première chose que Dieu a donnée à Josué, ce n'est pas le plan. Ce n'est pas la façon, le moyen, la méthode pour régler telle ou telle ou telle chose. Comment est-ce que je vais m'emparer de ceci? Comment je vais aller plus loin dans ma famille? Comment est-ce que je vais vaincre dans tel domaine? Ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'il faut absolument, comme Josué, que moi, que vous, nous recevions une authentique révélation de la personne de Jésus. La révélation de sa personne. C'est ce que Jésus a accordé à Josué. C'est Dieu qui est venu, c'est Jésus lui-même, verset 14. J'arrive maintenant. Il arrive pour communiquer sa victoire, mais la première chose, c'est qu'il va lui accorder sa révélation de sa personne, de sa gloire, de sa majesté, de sa position. Je suis le chef de l'armée. C'est comme si, dans une autre version, j'ai trouvé une autre traduction qui est beaucoup plus parlante. Jésus dit bien, c'est en tant que chef que je viens. Il n'a pas dit seulement « je suis le chef ». Il a dit « c'est en tant que chef que je viens. C'est en tant que maître. C'est en tant que roi. C'est en tant que vainqueur. C'est en tant que seigneur. C'est en tant que chef que je viens. » Et là, Jésus n'est pas venu comme agneau, immolé, sacrifié à ma place. Non, non, Jésus vient ici dans sa splendeur. Il vient en conquérant. Il vient en vainqueur. Il vient en roi couronné. Il vient en maître incontesté. Pardon, beaucoup de croyants ont la fâcheuse tendance de prendre de la Bible et de Jésus que ce qui les arrange. On a un sauveur et un merveilleux sauveur. Pardon, le drame de beaucoup de vies chrétiennes, c'est qu'elles ont un super sauveur, mais pas de Seigneur. Et là, Jésus n'est pas venu comme sauveur. Il est venu apporter une dimension de révélation. C'est vrai que Jésus sur la croix est mort pour nous. On veut d'un sauveur qui nous arrache à notre péché, à notre misère, qui nous ouvre la porte du ciel, qui guérisse nos maladies, de préférence toutes nos maladies, de préférence qu'il ne m'arrive jamais rien, de préférence que Seigneur, je ne manque pas de ceci, ou si je manque, vite, comble vite ceci, un Dieu qui répond à mes attentes, à mes besoins, à mes ceci, à mes cela, et donne, béni, exauce, fait, donne, béni, exauce, donne, fait, béni, exauce, donne, un super sauveur. Un super pourvoyeur. Mais Jésus, à ce moment-là, dit, c'est en tant que maître que je viens. Je viens en tant que Seigneur. Je ne viens pas en tant que pourvoyeur. Je ne viens pas en tant que guérisseur. Je ne viens pas en tant que sauveur. Cette fois, je viens devant toi en tant que Seigneur. Et cette révélation, cette position, ce règne de Dieu sur nous, ce règne de Jésus sur nous, n'est pas une option. C'est indispensable. Plus il va régner dans ma vie, plus il va régner sur moi, plus j'aurai de victoire derrière. Parce que le vainqueur, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je m'empare simplement ce que dans sa grâce, il veut bien me communiquer. Et ce qu'il me communique, c'est toujours à ses pieds que je le trouve. D'accord ? Et là, Josué, il va avoir sa révélation. Et Josué a compris qu'à ce moment-là, il fallait qu'il s'efface. Pour cette conquête, il fallait qu'il disparaisse pour laisser une pleine et entière liberté à Jésus pour se manifester. Et là, il dit bien, qu'est-ce que mon Seigneur, qu'est-ce que mon Adonai dit à son serviteur ? Et là, c'est fini de dire, Seigneur, il me faut ci, Seigneur, bénis-moi là, Seigneur, agis ici, Seigneur, donne-moi cette victoire, Seigneur, rends-moi efficace, Seigneur. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Alors pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande ? Et là, Josué passe un cap, il passe une dimension supérieure, et il dit « Qu'est-ce que mon Adonai dit à son serviteur ?» Et littéralement, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit ?» Le verbe « dire » traduit littéralement le verbe « ordonner »,« commander ». Josué, lui, il a commencé, quand il a vu quelqu'un au loin, avec son expérience, avec sa force, avec sa superbe d'une certaine façon, avec ses armes, il a commencé, il est monté, il a interpellé cet homme sans avoir compris que c'était une apparition de Jésus. Et il dit, mais est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis ? Et il était prêt à en découdre. S'il avait fallu, il serait passé à l'attaque. Et là, une fois qu'il tombe au pied du Seigneur, il dit, il n'y a plus de « est-ce que tu es avec moi, pas avec moi ? Qui tu es ? Je vais régler le problème, on va arranger la question, tu vas voir, moi je sais, ça fait 40 ans que je suis chrétien, tout ça je connais, je gère. Moi déjà dans le désert, à l'époque où Moïse avait les bras levés, les Amalécites, en bas j'en faisais qu'une bouchée, alors attention. Hein. » Et là il tombe au pied du Seigneur et il dit « qu'est-ce que mon Seigneur ordonne à son serviteur ?» Et là c'est pas lui le chef. C'est plus lui qui commande, c'est pas lui qui dirige. Il a compris que ce serait pas lui qui prendrait les décisions, mais que l'intérêt du peuple, son intérêt et l'intérêt du peuple, c'est que Jésus lui-même prenne les décisions et que le peuple soit conduit en fonction de ce que Dieu a ordonné. La meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est que ce soit pas moi qui vous conduise, surtout pas un homme. Oh, quel malheur! Mais que ce soit Jésus qui règne dans cette église et qui nous communique ce qu'il veut que nous fassions. Là, on va avancer. Et là, en tant que chef, il est celui qui a le pouvoir de décision, celui à qui tout et tous sont soumis. La place de Jésus dans nos vies, frères et sœurs, sa position dans nos vies, détermine notre qualité de vie. Et ça détermine aussi, elle détermine aussi, notre progression, notre marche et nos victoires. Est-ce que ça fait un moment que peut-être d'une façon ou d'une autre, tu vis dans l'échec ? Quelle que soit la forme de cet échec, peu importe ce qui te tient en échec, est-ce que peut-être depuis un moment, tu es en échec d'une façon ou d'une autre ? Pour les gens qui sont en échec, j'ai qu'une question. Pardon, qui règne ? Qui a pris la décision de ? Parce que quand Jésus conduit la voiture, je vous garantis qu'il ne la met pas dans le mur. Et quand il y a une voiture dans le mur, il y avait quelqu'un d'autre que Jésus qui conduisait. Et bien souvent, quand on est dans l'échec, frères et sœurs, il faut simplement reconsidérer quelle est la véritable place de Jésus dans ma vie. Quelle est la nature de ma relation avec lui ? Est-il sauveur, guérisseur, pourvoyeur, point barre ? Ou est-ce que j'accepte que ça aille plus loin et qu'il puisse enfin régner et donner ses directives et donner ses ordres ? Parce que je sais qu'ils ne sont pas là pour m'écraser, mais qu'ils sont là, de point de vue salutaire, pour m'emmener dans la victoire. Et Josué a changé de position. Il est passé de « Dieu avec moi » à « Dieu au-dessus de moi ». Dieu est avec nous. Super, on l'a chanté, pas de problème. Est-ce que nous aurions tous pu chanter « Dieu est sur moi » ? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et là, Jésus lui dit « Enlève tes souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Le lieu où Josué se tenait n'avait absolument rien de saint. En face de Jéricho, ça n'avait rien de saint. La sainteté, c'est pas, je le redis, c'est pas une tenue vestimentaire. La sainteté, c'est pas une apparence, c'est pas une façade, c'est pas un lieu physique. La sainteté, ce qui faisait que ce lieu était mis à part, ce qui faisait que ce lieu était exceptionnel, c'était le fait que la présence de Jésus y soit. Et c'est ça qui faisait de ce lieu exceptionnel. Vous êtes tous, pourvu que vous apparteniez à Jésus, vous êtes tous des gens exceptionnels. Parce que c'est la présence de Dieu en vous qui fait de vous des gens exceptionnels. Vous en êtes conscient ou pas conscient, ça ne change rien. Vous laissez ce potentiel à zéro ou vous l'exploitez à 100%, ça ne change rien. Vous êtes des gens exceptionnels, pas parce que je vous aime plus que d'autres ou que vous êtes mieux que d'autres, parce que vous avez en vous la présence de Dieu. Et ce qui faisait la différence, c'était le fait que Jésus soit là. Quand Moïse, dans le désert, avec ce buisson, avait eu cette révélation, ce n'est pas le désert qui était un lieu exceptionnel. Dans le désert, il y a quoi ? Il n'y a rien. Donc, ce n'était pas le désert. Non, c'était le fait que Dieu se tienne là en personne. Et là, il fallait qu'il y ait cette révérence. Et puis, il fallait cette capitulation du cœur. Il fallait aussi se prosterner. Il fallait reconsidérer la place de Jésus dans notre vie. Et Dieu n'a pas donné son plan tout de suite. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas faire pour t'en sortir. Je ne sais pas, frères et sœurs, de quoi ou de qui ou de où vous avez besoin de vous sortir. Je ne sais pas quelle action de Dieu vous avez besoin de voir dans votre vie. Je ne sais pas de quelle victoire vous avez besoin. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui va changer votre vie, c'est la position de Jésus dans votre vie. C'est ça qui va changer les choses. Et l'important, ce n'est pas le plan. L'important, ce n'est pas ce que je vais faire. Non, l'important, c'est ce que je suis. L'important, c'est où je suis. Dans cette troisième étape, pardon, je le dis ainsi, Jésus a pris la peine de remettre Josué à sa véritable place, c'est-à-dire à ses pieds. Il reçoit sa révélation. Vous ne pouvez pas vivre avec la révélation que Jésus a accordée à votre mari ou à votre femme. Vous ne pouvez pas vivre de la révélation du pasteur. Vous ne pouvez pas vivre de la révélation de vos enfants ou de vos parents. Chacun pour sa part, même un homme comme Josué, pourtant, ce n'était pas un petit nouveau, il n'était pas arrivé dans la vie avec Dieu avant-hier, il avait besoin de sa propre révélation de Jésus pour sa propre vie. Il avait besoin de cette dimension-là. Et Josué se retrouve terrassé, vaincu, brisé même, il n'est plus rien, juste au pied du Seigneur. La Bible me montre que dans un face-à-face avec Dieu, l'homme est toujours vainqueur, vaincu, mais vainqueur après. Il y a les deux, hein. Vaincu et vainqueur. Vaincu pour être vainqueur. Mais dans un face-à-face avec Dieu, l'homme est toujours premièrement vaincu. Moïse, devant Dieu, avant d'aller emmener le peuple, avant de le délivrer d'Égypte, dans le désert, le buisson ardent, Moïse n'est plus rien au pied de son Seigneur. Jacob au guet Jabok, avant de retrouver son frère Ésaü, avant de devenir une source de bénédiction, d'abord vaincu par Dieu. Ésaü, dans le temple, oui, il est dans le temple. Et pourtant, il reçoit cette révélation de Dieu Ésaïe chapitre 6. Paul, avant d'être l'apôtre que nous connaissons, terrassé par Dieu sur le chemin de Damas. Jean, sur l'île de Patmos, avant d'écrire l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, parce que Apocalypse, ça ne signifie pas fin des temps, Apocalypse, ça signifie révélation. Avant d'écrire la révélation des révélations, la révélation finale, il est tombé aux pieds de Jésus sur l'île de Patmos. Tous les hommes de Dieu, ça c'est la marque de fabrique de tous les hommes et toutes les femmes de Dieu. Si on ne passe pas par le point poussière, zéro, mort, anéanti, au pied du Seigneur, vous allez me dire, c'est dur un peu quand même ça. Ben non, c'est pas dur du tout. Parce que la Bible me montre, et je l'ai vécu, et vous l'avez vécu, que tous ceux qui mordent la poussière devant Dieu ne mordront plus jamais la poussière devant l'ennemi. C'est le chemin de la victoire. Ceux qui mordent la poussière devant Jésus ne mordront plus jamais la poussière devant le compromis ou devant le péché. Ceux qui mordent la poussière devant Dieu ne mordront plus la poussière devant la jalousie, devant la religiosité, devant la dépression, devant le mensonge, devant les circonstances de cette vie, devant les orages, devant les tempêtes, les pressions, les oppressions. Il y a tellement de sources de chute que Dieu a inventé un truc génial. Il s'est dit, je vais les faire tomber une fois pour toutes à mes pieds, et quand ils seront brisés à mes pieds, je leur communiquerai tout, et là, ils ne seront plus jamais vaincus par rien. Frères et sœurs, c'est inévitable. Nous sommes des créatures. Il faut bien comprendre que l'homme, par nature, est un adorateur. L'homme est fait pour mordre la poussière. L'homme est fait pour fléchir le genou. L'homme est fait pour, la femme aussi, je parle de l'être humain, l'homme est fait pour adorer. Et c'est inévitable, d'une façon ou d'une autre, un homme, une femme, un être humain tombera toujours devant quelqu'un ou devant quelque chose. C'est inévitable. Il n'y a personne qui reste debout. Tout le monde tombe. Et Dieu dit, ben, il vaut mieux que tu tombes devant moi. Parce que tomber à mes pieds, ça va te donner une dimension de vie derrière que tu ne peux encore même pas imaginer. Mais si tu ne tombes pas devant moi, dans ton couple, tu tomberas, dans ta famille, tu tomberas, au lieu de travail, tu tomberas, tu mordras la poussière, tu te prosterneras, tu feras des compromis, tu auras peur, tu seras oppressé, tu vas trahir, tu vas mordre la poussière devant les circonstances de ta vie, devant la maladie, la dépression, toutes les choses possibles et imaginables, tout ce qui peut arriver. D'une façon ou d'une autre, tu mordras la poussière. Parce que c'est ta condition humaine, ne te fais pas d'illusions. Personne ne reste debout. Ben moi, je préfère tomber devant Jésus une fois pour toutes et être vainqueur pour tout le reste. C'est ce qui s'est passé pour Moïse, pour Jacob, pour Ésaïe, pour Paul, pour Jean. Ici, c'est le cas de Josué, j'ai rien inventé. Bien sûr, j'ai rien inventé. C'est inévitable de mordre la poussière. C'est inévitable pour connaître une vraie dimension de vainqueur. C'est le chemin de la vraie victoire. Et je le rappelle, parce que les plus grandes murailles, celles qui posent le plus de problèmes à l'œuvre de Dieu, ne sont pas celles de Jéricho, mais celles qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Et là, après la circoncision du cœur, après la puissance de vie de la croix, on a une troisième étape qui pourrait être en réalité une troisième étape dans cet anéantissement total du moi, dans cette mort à soi. On a cette troisième étape où Josué est à ses pieds. Il n'est plus rien aux pieds de son Seigneur. Mais je bénis Dieu de ce que celui qui tombe devant Dieu ne tombera plus devant le reste, quelle que soit la forme de ce reste. Celui qui plie le genou devant Dieu ne pliera plus jamais le genou devant l'ennemi, quelle que soit sa forme. Je crois que le drame de beaucoup de vies chrétiennes, je l'ai dit dans le premier point, c'est qu'elles ont un super sauveur, mais pas un Seigneur. Et je dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, de douceur, vous me connaissez, que la grande tristesse de beaucoup de vies chrétiennes, c'est pas qu'il leur manque encore un peu d'argent sur leur compte en banque, c'est pas que leur famille ne soit pas parfaite, non, ce n'est pas non plus qu'il y ait encore tel ou tel problème qui ne soit pas réglé, que telle ou telle maladie ne soit pas encore guérie. Non, la grande tristesse de beaucoup de vies chrétiennes, c'est qu'elle n'ait jamais mordu la poussière devant Dieu. Parce que ça, quand ça c'est fait, on peut vivre autre chose. On peut vivre grand, on peut vivre loin, on peut voir loin, on peut vivre grand, on peut s'emparer de beaucoup de choses. Et une fois que c'est fait, et c'est seulement à ce moment-là que l'entretien va se terminer, lorsque Jésus va dire à Josué, « J'ai livré entre tes mains ». Ça signifie que pendant que le peuple était en train de se mettre au diapason des exigences divines, alors qu'il avait une impression terrible de perdre son temps, parce que quand on est zéro anéanti au pied du Seigneur, qu'est-ce qu'on a l'impression d'être inutile? Qu'est-ce qu'on a l'impression de servir à rien? Qu'est-ce qu'on a envie de se sauver? Qu'est-ce qu'il y a comme chose en nous qui crie « Vengeance, je veux vivre, je veux faire ci. Hey, Seigneur, tu préférerais pas que je fasse encore un quatrième service pour toi dans l'église ?» Non, je te veux à mes pieds. Le quatrième service ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est d'être à mes pieds. Et pendant que le peuple était en train de se mettre au diapason avec les exigences divines, Jésus était en train de combattre pour eux. Parce que les grands combats ne se livrent pas sur la terre. Les grands combats se livrent dans les sphères célestes. Et notez bien que dans ce récit qu'on a lu, lorsque Jésus est apparu à Josué, il est arrivé son épée nue à la main. Son épée était dégainée parce que Jésus était en réalité de retour de conquête. Il était de retour de victoire. Pendant que le peuple était en train de se mettre au diapason des exigences divines, Jésus était en train de combattre dans les sphères célestes des forteresses non pas terrestres, mais des forteresses spirituelles, célestes, étaient en train de tomber. Et à ce moment-là, Jésus est revenu de vainqueur, il est revenu ici devant Josué, son épée nue à la main, en lui disant « Vois !» Mais il ne lui a pas montré Jéricho terrestre, il lui a montré le Jéricho céleste. Et avec son épée dégainée, il lui a dit « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. » C'est fait, c'est réglé. Pendant que tu étais à mes pieds, pendant que tu t'occupais de moi, je me suis occupé de tes problèmes. Pendant que tu étais à mes pieds, pendant que tu t'es occupé de moi, j'ai combattu et j'ai vaincu pour toi. Et maintenant, dans ma grâce, je vais te communiquer la victoire que j'ai remportée. C'est Jésus qui remporte les victoires, pas nous. Nous, on ne remporte rien du tout, il ne faut pas se leurrer. J'ai livré entre tes mains, dans ma grâce, je vais te communiquer cette victoire. Et ce, déjà, ce qui s'est passé dans le ciel, pas encore sur la terre, maintenant tu vas le voir. Et là, pour tester sa soumission, son obéissance, sa confiance, etc., etc., Jésus va lui livrer le plus absurde des plans qui existent, militairement parlant, humainement parlant, parce qu'il fallait absolument que le peuple comprenne que c'est Dieu qui remporte les victoires, c'est Dieu qui les communique. Nous ne sommes juste que ses instruments. Nous sommes des instruments à ses pieds. Nous sommes des instruments entre ses mains. Son épée dégainée à la main, Jésus lui dit « J'ai livré entre tes mains ». Le peuple a pu enfin prendre possession de ce que Dieu lui livrait dans sa grâce. Frères et sœurs, le mot « conquête », c'est un mot qui est super à la mode dans le monde évangélique aujourd'hui. Il est malheureusement très mal compris, très mal expérimenté, très mal vécu, très mal mis en pratique. Il y a une chose qui est sûre. Dieu ne cherche pas des conquérants. Dieu cherche des adorateurs. Et ensuite, il va livrer ce que lui-même a remporté entre les mains de ses adorateurs, de ses vrais adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera plus tard cette série de messages. Je sais, je me doute qu'il doit y avoir dans bien des cœurs, bien des vies, il doit y avoir des murailles, des obstacles, des Jéricho, des forteresses. Il y a tellement de choses. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel est ton Jéricho ce matin. Je te demande une chose, je t'en supplie. Spirituellement parlant, sois intelligent. Ne te lance pas tête baissée à la conquête de ton Jéricho. Tout ce que tu vas réussir, c'est à mourir un peu plus avec tes ennemis. Tu ne conquerras rien du tout. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de méthode. Il y a un cœur qui est plein et entier, sans partage, un cœur totalement engagé envers Jésus et envers sa cause. Il y a un cœur qui accepte de vivre dans l'esprit de la croix et de planter la croix dans son cœur pour vivre cette dimension de puissance de vie. Et puis il y a des adorateurs, des gens qui sont là, zéro, anéantis, poussière au pied de Jésus. Et quand ils se relèvent, ces gens-là ne sont plus jamais les mêmes. Ce sont les plus grands vainqueurs et les plus conquérants que l'on puisse rencontrer sur cette terre. J'espère que vous serez et qu'on sera ensemble de cette race-là et de cette trempe-là. Amen.